franceinter.fr.
Et à la une de la science, le télescope Gaïa et ses incroyables observations sur notre galaxie aujourd'hui donc.
2, 1, top, décollage.
Dans la nuit guyanaise, 10h12 heure de Paris, Soyouz. La fusée russe emporte le satellite le plus sophistiqué construit pour l'exploration de l'univers. 336 tonnes de fusée pour mettre les 2 tonnes du satellite en orbite, après 42 minutes de vol. Ce matin, le voyage de Gaïa ne fait que commencer. Durant un mois, l'engin va s'éloigner en spirale de la Terre. Le 19 janvier, il sera en poste fixe à 1,5 million de kilomètres, loin de toute influence terrestre, et commencera à scanner l'univers.
Et c'était donc le 19 décembre 2013. Et si on changeait de point de vue sur la Voie lactée, eh bien c'est exactement ce que permet aujourd'hui le télescope Gaïa, en fournissant une avalanche de données d'une précision inégalée sur les étoiles et sur la galaxie. Caroline Tourbe, on en parle avec notre invitée.
Oui Mathieu, aujourd'hui nous sommes au téléphone avec Alexandra Recio-Blanco. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'équipe Galaxie et Cosmologie à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice et vous participez à l'analyse des mesures envoyées par le télescope Gaïa. Alors, pourquoi est-ce que, selon vous, on peut dire que ce télescope est en train de révolutionner nos connaissances sur la Voie lactée ?
Alors, parce que Gaïa va réaliser, est déjà en train de réaliser une carte en 3D, une carte 3D mais en mouvement, d'une portion très importante de notre galaxie, la Voie lactée. En fait, cette carte contient quasiment tous les astres qui seraient jusqu'à 1 million de fois moins brillants que ce que nos yeux peuvent voir, peuvent détecter. Et il faut penser que jusqu'à maintenant, notre connaissance de la structure de la galaxie pouvait être comparée à celle des cartes du monde d'il y a quelques siècles, quand le profil des côtes était mal dessiné, qu'il y avait des continents entiers qui restaient inconnus. Donc grâce à Gaïa, nous allons passer dans une nouvelle ère dans laquelle, pour reprendre ce parallèle avec les cartes du monde, on va avoir des cartes modernes en 3D qui peuvent même inclure une mesure de la dérive des continents. Donc ça va être un bond en avant de nos connaissances sur la galaxie.
Donc on passe des cartes du Moyen-Âge, des navigateurs du Moyen-Âge, à une carte 3D de la galaxie. Il faut dire qu'actuellement, Gaïa, dans la dernière moisson, elle a permis d'avoir 1,7 milliard d'étoiles passées au crible par Gaïa, c'est ça ?
Exactement, c'est environ 1% des étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. Donc Gaïa, le satellite, balaye toute la sphère céleste et enregistre très précisément pour toutes les sources lumineuses détectées la position, la distance aux étoiles, mais aussi les mouvements, la brillance et les couleurs de ces étoiles. Toutes les étoiles n'ont pas la même couleur. Et pour les plus brillantes d'entre elles, on aura également, on est en train de collecter les spectres et donc les mouvements en 3D. Les positions des étoiles, il faut penser spécialement les plus brillantes, sont mesurées avec une précision qui est semblable à celle d'être capable de détecter la taille d'une pièce de 1 euro qui serait posée sur la Lune.
Alexandra Recio-Blanco, justement, vous dites 1,7 milliard d'étoiles passées au crible par Gaïa. Il y a quelques années à peine, on était capable d'en compter combien au fond dans notre Voie lactée ?
Donc il faut, pour donner une idée, il y a eu une mission similaire à celle de Gaïa il y a environ 20 ans maintenant, qui s'appelait Hipparcos, aussi une mission européenne, qui a eu un impact important sur notre connaissance de la Voie lactée à ce moment-là, et elle avait mesuré les positions de 120 000 étoiles. Donc ici, on est à des ordres de grandeur au-dessus de ça. Ouais. En plus, Hipparcos mesurait seulement l'environnement du Soleil, c'est-à-dire vraiment notre la cour, le petit jardin autour de notre maison.
De la maison.
Maintenant, on va au-delà des régions inexplorées jusqu'à présent.
Et comment est-ce qu'on fait quand on a autant de données, 1,7 milliard d'étoiles passées au crible? Comment on fait quand on reçoit toutes ces données? Est-ce que Gaïa, tous les jours, envoie de ses nouvelles et puis au fur et à mesure, on arrive à les trier? Comment on s'organise?
Tout à fait. Donc, en effet, c'est un enjeu majeur de la mission qui nous a fait même changer notre façon de travailler. Depuis quelques années, pour préparer la mission, enfin, depuis maintenant plus d'une décennie, un consortium d'environ 450 chercheurs et ingénieurs européens, c'est un consortium international, prépare les algorithmes pour traiter tous les jours les données que le satellite Gaïa nous envoie de façon automatique, évidemment, parce que si on doit regarder toutes ces données, on finira jamais. Et donc, ces algorithmes fonctionnent tous les jours pour nous extraire les informations physiques sur les étoiles, par exemple la température, les positions, etc. Et après, nous faisons des vérifications du résultat de ces analyses avec des équipes internationales. Et au bout de ces vérifications, on arrive à des publications comme celle du 25 avril dernier.
Jean-Philippe Uzan, c'est du jamais vu, hein, ce qui se passe avec ce télescope Gaïa sur finalement l'inventaire qu'on peut faire de notre Voie lactée.
Non, c'est fabuleux. Ouais. C'est fabuleux et je crois que c'est aussi c'est un exemple de ce que l'astrophysique est en train de devenir. C'est un exemple. On a d'autres satellites. On a parlé à l'envi des ondes gravitationnelles et aussi de toute la technologie qu'il a fallu mettre en place pour avoir ces détecteurs-là. Et je crois qu'on a la chance, en ce début de 21e siècle, de vivre une époque où on découvre énormément sur l'univers. Et je crois que c'est ça, peut-être le premier apport de la science, c'est de nous donner des nouvelles façons de regarder l'univers, de voir des couleurs qu'on n'est pas capable de voir, des signaux pour lesquels nous n'avons pas de sens, et qu'à chaque fois qu'on regarde, on est un petit peu moins aveugle face à cet univers, et on découvre un peu plus sa structure. Et là, c'est fabuleux. Alors, la Voie lactée, c'est vraiment notre environnement
le plus
proche.
C'est ça, c'est la banlieue proche, là. Hein.
Voilà, ouais. Mais comme il a été dit, on fait une carte en 3D et on mesure le mouvement. Or, la position des étoiles et leur mouvement sont reliées ensemble par des équations du mouvement qui sont dérivées de la théorie de la relativité générale. Et donc, ça va permettre de peut-être faire une carte de la matière noire, de tester notre théorie de la gravitation. Donc, on voit qu'avec un objet très proche, on peut faire des tests de physique fondamentale. Et ça, c'est aussi très, très important.
Alors oui, Alexandra, ce qui s'est passé, c'est que quand on a révélé donc ce deuxième catalogue de données de Gaïa, il y a eu vraiment une ébullition. Tout de suite, les chercheurs se sont mis à publier. Il y a déjà eu quelques données?
Oui, tout à fait. Les chercheurs, il y avait un engouement, une attente énorme de l'ouverture de l'archive le 25 avril. Et donc, tout de suite, après l'ouverture de l'archive, il y a eu déjà des publications, des nouvelles publications arrivent tous les jours. Et donc, parmi celles-là, on peut mentionner les premiers résultats sur, par exemple, les mouvements des étoiles dans le disque de la Voie lactée. Donc, les étoiles, notre Soleil lui-même se trouve dans le disque galactique. Notre galaxie a une forme spirale, on va dire en forme de frisbee, et le Soleil se trouve plus ou moins à mi-chemin entre le centre de la galaxie et l'extérieur. Voilà. Et donc, on a mesuré avec précision les mouvements en 3D des étoiles dans le disque, et ces mouvements nous montrent d'une façon détaillée comment les étoiles du disque non seulement tournent autour du centre galactique, mais elles semblent perturbées dans leur mouvement, comme quand on jette une pierre dans une mare, et du coup on observe des courants d'étoiles avec des structures en forme, par exemple en forme d'arche. On les a vus grâce à ces données pour la première fois.
Et ce n'est qu'un début, puisque
ce n'est qu'un début. En fait, grâce à ce genre de données, on arrive à mieux comprendre quels sont les processus physiques qui ont formé la galaxie telle qu'elle nous la voyons aujourd'hui, comme par exemple la migration des étoiles dans le disque ou bien l'accrétion de galaxies satellites plus petites. On est capable de voir par exemple comment la galaxie satellite, le grand nuage de Magellan, tourne sur lui-même. C'est un ensemble de données très riche et vraiment passionnant.
Et vous n'avez pas fini, hein, les astronomes, les astrophysiciens, de décortiquer évidemment ces données extraordinaires grâce donc à ce télescope Gaïa. Merci Alexandra Recio-Blanco, vous étiez en duplex depuis l'Espagne. Merci pour toutes ces précisions. Et puis Caroline, on se retrouve demain pour une nouvelle une. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, toujours dans l'espace, la NASA qui stoppe un projet de rover lunaire. Et c'est une surprise. En effet, il y a quelques mois, Donald Trump avait affiché sa volonté de renvoyer des astronautes américains sur la Lune. Or, ce programme, baptisé Ressources Prospector, était l'unique véhicule lunaire autonome en cours de développement à la NASA. Le groupe de scientifiques qui travaille sur l'engin a exprimé son incrédulité et sa consternation dans un courrier à l'agence spatiale. Le robot lunaire, dont la construction a débuté voilà 10 ans, était le seul au monde donc potentiellement capable d'explorer les régions polaires de la Lune. Son lancement était prévu en en 2022. L'agence indique simplement qu'elle cherche à évoluer vers des atterrisseurs plus grands et plus capables d'être habités. La marijuana pourrait réduire l'utilisation d'antidouleurs chez les personnes de plus de 60 ans. Une étude menée sur plus de 130 utilisateurs par des chercheurs américains montre que jusqu'à 65% d'entre eux ont significativement diminué leurs douleurs chroniques et leur consommation d'opioïdes. 27% de ces patients ont même arrêté totalement l'utilisation des antidouleurs. Mais attention, pour profiter des bienfaits du cannabis, il semble qu'il faille mieux le consommer sous forme de tisane, de spray buccal ou de médicaments, et donc pas sous forme de pétard. À noter que les auteurs de l'étude regrettent que la prescription de marijuana reste à un coût prohibitif pour de nombreuses personnes et ne soit pas encore couverte par les assurances américaines. Et puis un rat kangourou réapparaît alors qu'on le pensait totalement disparu. La dernière fois qu'il avait donné de ses nouvelles, c'était il y a près de 30 ans. Le rat kangourou de San Quintín est originaire des maquis arides de la Basse-Californie au Mexique. Il tire son nom de sa capacité à sauter, mais il n'a rien de commun avec les marsupiaux. Long d'une dizaine de centimètres, ce rat kangourou a été victime du développement de l'agriculture intensive dans la région, au point qu'on le croyait donc disparu. Sauf qu'il y a quelques mois, lors d'une mission de routine d'observation de la faune, des chercheurs sont tombés nez à nez avec un spécimen bien vivant. Après recherche, il semble même que l'espèce soit en train de reprendre du poil de la bête grâce à la diminution de la culture dans la région à cause de la sécheresse.